France Inter. Plus on fait d'interviews, plus on raconte des choses sur son activité, finalement, moins on est quelqu'un. On est, et c'est sans doute ça que l'on désire, on n'est plus qu'un montreur. Il y a très longtemps, je disais toujours, l'artiste, comme ça, mais c'est une idée très chrétienne en plus, l'artiste, c'est quelqu'un qui tient un miroir, et chaque personne qui le voit dit « c'est moi ». Et naturellement, celui qui tient le miroir n'est plus personne, il n'est plus que le désir des autres, que l'image des autres.
Certains le disent réaliste, d'autres fantastique. On le prend pour un historien, quelquefois pour un provocateur. Lui, il dit qu'il n'est rien. Par son art, pourtant, il nous amène à nous dévoiler nous-mêmes. À l'occasion de sa nouvelle rétrospective au Centre Pompidou intitulée « Faire son temps », l'Heure Bleue consacre deux émissions à Christian Boltanski. Ce soir, c'est B numéro 1. Et comme chaque soir, on commence en musique avec « Mémoire, mémoire » de Gérard Depardieu qui chante « Barbara ».
Mémoire. Oui. Mémoire. Oh, mémoire. Dans la folie recluse où j'étais enfermé, ma mémoire en intruse vient de se réveiller. Dans ma vie sans soleil, ma mémoire appareille vers un passé soleil sur fond rouge vermeil. Ma mémoire me diffuse des images confuses et je m'en éblouis et je les reconstruis. Ma mémoire me balance le mal de votre absence. Ce souvenir d'enfer me brûle à cœur ouvert. Mémoire, mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens dans l'eau du paysage. Se mirent vos visages en mémoire. Des aubes pâles, des matins pâles, tu me fais mal, mais tu me ramènes doucement ma vie recommencée. Oh, oh, mémoire, au bout de mes doigts, j'entends et je vois l'image d'un paysage dévasté. Comment ai-je pu quitter ce que j'ai tant aimé? Mémoire, tu me reviens. Oh, mémoire, tout me revient.
Ben merci de nous recevoir chez vous, Christian Boltanski. Vous habitez toujours le même atelier, et ça fait combien de temps?
Je pense que ça fait à peu près une vingtaine d'années, 20 ou 22 ans ou 24 ans. En fait, j'y travaille extrêmement peu, parce que je travaille d'une manière générale, je travaille très très peu. Et c'est plutôt d'avoir un lieu à moi, où je suis au calme, et où je peux me gratter le nez. Cet atelier, il a la particularité, c'est que il y a cette histoire avec la Tasmanie. C'est-à-dire que depuis maintenant 9 ans, mes faits et gestes, enfin mon atelier est filmé jour et nuit par des caméras de surveillance, et c'est envoyé en direct en Tasmanie dans une fondation, et il y a des millions, enfin des milliers de disques durs qui contiennent toute mon existence. Et donc, ça s'arrêtera à ma disparition. Et donc, il y aura de plus en plus Oui, d'enregistrement, qui ne sont sans aucune espèce d'intérêt d'ailleurs, parce que comme il ne se passe rien. Enfin, là, ça va amuser les Tasmaniens, vous soyez là. C'est déjà une bonne chose. Au moins, ils auront quelque chose à regarder.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pacte avec le diable?
Il y a un homme en Tasmanie qui s'appelle David Walsh, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et il a fait une fondation qui est liée, comme le vieux sujet, au sexe et à la mort. Et un de mes amis l'a connu, il lui a dit, il faut que vous voyiez Boltanski parce que il a beaucoup travaillé sur l'idée de la disparition. Et donc je l'ai vu, et cet homme était tellement intéressant que j'ai décidé de jouer avec lui. Parce que bon, il faut vous dire que cet homme a fait une fortune énorme seulement par le jeu. Et il
le
peut
jeu de quoi, de cartes,
d'abord au casino à la roulette, et maintenant il parie sur toutes les courses de chevaux au monde. Et il peut calculer plus vite qu'un ordinateur. C'est, il peut vous dire en une seconde combien il y a de briques sur un mur de briques. Enfin, c'est une sorte de génie. Et donc il m'a appris par exemple à comment gagner au dé ou des choses comme ça. Bon. Et donc il a fait une fortune gigantesque. Il était très pauvre au départ seulement par le jeu. Et donc avec cet argent, il a collectionné. Non, beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que c'est un des plus grands collectionneurs, par exemple, de pièces de monnaie antiques. Et notamment beaucoup de momies. Beaucoup de momies égyptiennes et de momies sud-américaines.
Il vit avec les momies?
Il a cette grande fondation qui est énorme. Et il m'avait d'ailleurs proposé d'acheter mes cendres. J'ai refusé parce que j'ai pas envie de finir ma vie en Tasmanie. Il pleut énormément. Et donc, je me dis toujours, quand je vais là-bas, que ces pauvres momies qui sont nées au bord de la Méditerranée, ils avaient pu imaginer qu'ils seraient là pour toujours. Je sais, c'est comme si nous, on nous disait qu'on serait confinés sur Mars. Enfin, c'est tout de même extrêmement différent comme pays. Et donc, en bavardant avec lui, j'ai eu cette envie de jouer avec lui, de lui proposer ce qui était une très vieille idée à moi, mais personne n'avait pu le faire, de filmer ma vie, de conserver ma vie. Et donc, on a fait un contrat, qui était un très gros contrat.
Avec de l'argent?
Naturellement, parce que là, c'était un autre problème. C'est que, bon, on a fait ça avec des avocats des deux côtés, mais ça a duré 6 mois. Et puis, finalement, j'ai décidé de lui vendre ma vie en viager. Et normalement, c'est un joueur, donc ça lui a plu. Et lui, j'ai fixé une somme pour l'œuvre, qui est mon œuvre ultime, puisque ça s'arrête à la mort. Et lui a fixé la mensualité. Et il y a maintenant 6 mois, il a remboursé l'argent que je lui avais demandé pour l'œuvre. Donc maintenant, il me paie plus que ce qu'il pensait me payer, comme tout viager.
Donc il espère que vous allez mourir vite.
Il m'avait assuré que j'allais mourir il y a à peu près 1 an. Et on avait fait des trucs médicaux et tout ça, enfin on avait ça sérieusement. Lui était sûr de ça, il me dit « je n'ai jamais perdu ». Et là, pour le moment, il a perdu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là, il a perdu. Et donc, il y a chez lui une sorte de caverne bunker où il y a tous ces DVD qui sont conservés. Et donc, c'est des très grandes armoires, parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Et il avait prévu la taille pour s'arrêter il y a 6 mois. Et donc là, il est obligé de construire une nouvelle armoire. Mais ça a l'air anecdotique comme ça, mais ce qui m'intéressait, c'était que dans le premier petit test que j'ai fait en 69, j'ai dit « je veux mettre ma vie en boîte ». Et là, en quelque sorte, il a ma vie en boîte. Il a ma vie dans une boîte. Je voudrais qu'après ma mort, il augmente la vitesse de ses DVD de 5000 ou 6000 fois. Donc on ne verra absolument rien. Et de temps en temps, on pourra appuyer et arrêter l'image et me voir à l'image ou pas me voir. Parce que forcément, je suis souvent en voyage. Donc c'est filmé jour et nuit, mais il y a des fois où je ne suis pas là. Et quoi qu'il en soit, que je sois là ou que je sois pas là, c'est filmé. Et il y a quelqu'un, parce que une chose qui m'intéressait, c'est que si vous acheté la vie de quelqu'un.
Donc vous avez vendu votre vie.
En quelque sorte, en fait, je lui ai vendu ma mémoire. Parce que moi, je me souviendrai plus du tout quand est-ce que vous êtes venu. Et lui, il suffira qu'il regarde. Il sait exactement quand vous êtes venu, quelle heure il était, etc.
Bon. Et vous êtes sûr qu'il regarde?
Ah oui, ça, j'ai des photos. J'ai été voir dans le lieu, dans le bunker. Oui. Et non seulement il regarde, mais il paie quelqu'un pour me regarder. Parce qu'on peut pas, vivre et regarder quelqu'un vivre. Et donc, il y a un malheureux qui me regarde, qui s'occupe de moi, quoi. Alors, je pense pas qu'il me regarde tout le temps, mais il fait, le best-of de la semaine. Et donc, parce que souvent, c'est pas très intéressant, là, vous serez
c'est
sûrement...
C'est sexy, le best-of de votre semaine,
Vous serez sûrement dans le best-of, là, c'est sûr. Mais, moi, ce qui m'intéressait au départ, d'une part, je m'intéresse beaucoup au hasard. Et donc, cette idée du viager m'intéressait, du jeu. Et puis aussi, c'est que, vu mon âge, on me voit vieillir en 9 ans. Par exemple, cet escalier qui est ici, je le montais beaucoup plus facilement il y a 9 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me tiens à la rampe. Un jour, peut-être que je ne pourrai plus le monter. Et donc, tout ça sera inscrit. C'est comme une sorte d'autoportrait qui est, au lieu que ce soit une image arrêtée à un moment, qui est sur le temps. Où on voit le délabrement de mon être. Donc, en tout cas, tout se passe très bien. J'ai peu de rapports avec lui. Et il ne nous entend pas. Il peut nous voir, mais il ne nous entend pas. Il peut lire mes lettres, parce que c'est des caméras extrêmement performantes.
Donc, on ne voit pas, les caméras, là.
Si, elles sont partout.
Mais elles sont minuscules, alors.
C'est des très bonnes caméras de surveillance. Et... Et c'est des caméras qui peuvent tourner, donc ils peuvent nous suivre complètement. Ils peuvent nous... Et donc, l'idée, c'est que, en même temps, il a des milliers d'heures de ma vie, et en même temps, il n'a rien, forcément, s'il n'a pas mes pensées. Et puis que...
Ni vos paroles.
Ni mes paroles. Et puis que les regarder serait tellement long que plus personne ne pourrait les re-regarder. Donc, si vous voulez, c'est comme dans les ordinateurs où il y a tellement d'informations qu'il finalement il n'y a plus d'informations. Lui, il a tellement d'informations sur moi que c'est comme s'il n'en avait plus. Et également, je dois dire que si j'ai accepté de faire ça, c'est parce que c'était en Tasmanie et que la Tasmanie est quand même extrêmement loin des gens que je connaisse. Donc, il y a relativement peu de chances que quelqu'un que je connaisse aille en Tasmanie.
Donc, vous voir.
Donc, me voir. Donc, moi, j'ai été 3 fois en Tasmanie. Mais naturellement, quand j'y vais, je suis pas ici. Donc alors là-dessus, ce qui est extrêmement positif, c'est que si par hasard j'avais un cambriolage, la Tasmanie me préviendrait. Alors, et ce serait un peu long, naturellement, parce que forcément, quand c'est la nuit ici, c'est le jour là-bas, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'il y aura 24 heures de distance. Mais enfin, je serais prévenu qu'il y a quelqu'un dans mon atelier si j'y suis pas.
On pourrait imaginer que ce joueur de Tasmanie, votre collectionneur, Christian Boltanski, vous propose un jour de vous mettre une caméra dans la tête.
Il voulait absolument que je me promène avec une caméra. C'est-à-dire que je l'ai constamment quand je voyage. Et ça, j'ai pas voulu. Un des grands points d'achoppement était de savoir si lui mourait, si je continuerais à être payé. Et à continuer.
Vous avez le même âge?
Il est beaucoup plus jeune, il a 50 ans. Mais enfin, on ne sait jamais, un accident peut arriver. Et donc, finalement, il n'a pas, parce qu'il avait un parent, donc je voulais que ça tombe sur son parent pour continuer à me payer, mais finalement, il n'a pas voulu. Donc ça s'arrête au premier mort. Donc le premier qui meurt, on arrête les choses. Mais, toute mon activité depuis le début a essayé de préserver la vie, de préserver des moments. Et naturellement, c'est toujours raté, parce qu'on ne peut rien préserver. Et donc, il a tout, mais il n'a rien, quoi. Donc c'est plutôt un exemple de montrer l'impossibilité de préserver quoi que ce soit. C'est comme quelqu'un qui ferait son journal. Et il n'y a pas tout, il n'y a rien. Et si le journal a 40 000 pages, c'est encore pire, parce que personne ne peut lire ce journal.
C'est peut-être aussi l'attestation de votre existence, parce qu'on a l'impression que peut-être, quelquefois, vous vous dites que vous n'êtes pas vivant.
C'est une image de moi qui est très fausse, comme... Quand je dis que je ne suis pas vivant, je pense que plus un artiste travaille, moins il n'existe. Il devient son œuvre. Il ne devient plus que son œuvre. Et toujours que, à la fin de sa vie, Giacometti ressemblait à Giacometti, Bacon à Francis Bacon, et moi, comme j'ai beaucoup utilisé des boîtes de biscuits, à une boîte de biscuits. Donc, il y a forcément une sorte de, on devient son objet créatif. Et donc, lui, il a aussi une image de moi qui est pas une image totalement personnel, ou si tant est que j'ai une vie personnelle, mais il a l'image extérieure, quand je reçois des gens, quand je travaille, quand, mais il y a des choses qu'il n'a pas, il n'a pas mes pensées, et donc de toute façon, on ne peut rien préserver, on ne peut rien conserver, et peut-être que toute cette histoire est seulement un moyen de montrer qu'on ne peut rien préserver. Donc on peut essayer de tout garder, mais on ne peut rien garder.
Mais est-ce que vous avez l'impression, Christian Boltanski, d'avoir pu changer, plus changer dans les 9 dernières années, avec justement cette caméra qui en est le témoin, que depuis que vous êtes né? Parce que peut-être que votre joueur, il s'acharne à essayer d'enregistrer quelque chose qui ne change guère.
D'abord, lui, il me dit toujours que ce qu'il a envie, c'est de me voir mourir en direct. Mais ça, il y a extrêmement peu de chances, parce que je peux mourir dans la rue, en voyage, ou à l'hôpital. Il y a peu de chances que je meure ici. Donc lui, c'est cette chose au départ qui l'intéressait. Parce qu'il se passerait quelque chose, là.
Il veut votre mort, quoi.
Oui, on n'a pas des très bons, on a des rapports pas mauvais, mais on, des rapports un peu difficiles, parfois. Et en tout cas, oui, il est sûr que plus on vieillit, plus l'objet s'abîme, si je puis dire. Mais de toute façon, je pense que dans une vie, alors là je parle de la vie plutôt de création, de créateur, on a des périodes et très peu de moments de création et de changement. Donc je pense que, par exemple pour moi, en étant optimiste, j'ai eu une période de création quand je suis devenu adulte, je suis devenu adulte un peu tard, vers 24 ans, et puis une période de création quand mes parents sont morts, parce que c'est une autre stade de la vie, et une troisième période de création quand je suis devenu très vieux. Donc c'est des moments qui sont des moments de changement physique. Et donc je pense également que y a des périodes où on change physiquement et on change moralement. Et il est sûr que mon art aujourd'hui, en même temps, effectivement, on parle toujours de la même chose, mais mon art n'est pas celui que je faisais et il y a 10 ou 15 ans. Enfin, ça a commencé à peu près, d'ailleurs, à cette période-là. Mais pas il y a 20 ans. Mais, comme vous voyez, cet atelier est vide, il n'y a absolument rien.
Oh bah, vous exagérez, je vois des tas de choses, moi.
Et
1907-1989.
Ça, c'est le portrait de ma mère. C'est-à-dire qu'elle est née en 1907 et elle est morte en 89. Et au milieu, il y a un tiret.
Et le portrait, c'est pas du tout un visage.
C'est deux chiffres. Deux dates. Et je dirais que la vie est un tiret entre deux dates. Et donc, toute notre vie n'est qu'un tiret entre deux dates. Donc, toute sa vie, c'est dans ce petit trait noir qui est là. Et puis, en dehors de ça, là, il y a des choses que j'essaye de faire en ce moment, depuis un certain temps. C'est des images sur tulle, très, très légères, très, très passées, presque blanches, et que je perce, que j'abîme. Dans l'idée de, c'est un peu comme des suaires. C'est-à-dire qu'elles sont mangées, l'image est mangée par la destruction que je fais avec un cutter. Et de toute façon, ces images sont des images à peine visibles, tellement passées. Et puis, il y a le mot « na » qui, en néerlandais, veut dire « après ». Et j'ai fait une exposition à Amsterdam il n'y a pas très longtemps, et je mets beaucoup le mot « na » parce que c'est très graphique. Et « na », c'est très simple. Donc, l'exposition s'appelait « na », et donc il m'avait fait une affiche, et donc j'ai gardé ça. Et puis là, j'ai des bébés polonais. J'ai énormément de bébés polonais. Je pense que j'en ai à peu près 6 000 ou 7 000. Très calme, d'ailleurs. Et c'est des bébés qui ont un seul jour. Ils viennent de naître. Ils n'ont pas encore de nom, de prénom. Et ça m'intéressait parce que, disons que leur destin n'est pas encore écrit. Puisqu'ils viennent vraiment de naître. Ils sont très, très vilains. Comme tous les bébés qui viennent de naître. Et l'idée est amusante, c'est-à-dire que la source, c'est que le grand journal de Varsovie, la Gazeta, ne vendait pas ses journaux le week-end. Et donc, ils ont eu l'idée brillante de mettre les photos des bébés qui étaient nés dans la semaine, le week-end. Donc, les parents achètent 3 ou 4 numéros de chaque... Et donc, dans chaque numéro du samedi, il y avait peut-être, je sais pas, 500 bébés ou un truc comme ça. Donc, en très peu de temps, j'ai pu accumuler cette masse énorme de bébés. Et qui m'ont servi dans une œuvre qui s'appelle Chance, qui était à la Biennale de Venise il y a quelques années, et où c'est...
Vous représentiez la France.
Et où c'est tous ces bébés, donc il y en avait des centaines et des centaines, tournaient un peu comme les imprimantes des journaux, extrêmement rapidement. Et puis, il y avait un ordinateur aléatoire qui arrêtait parfois la machine. Et un bébé était filmé pendant, je sais plus, 20 secondes, une chose comme ça. Enfin, il était choisi. Et donc, c'était sur l'idée du choix et du destin. Parce qu'effectivement, si nous sommes ce que nous sommes, nous tous, c'est parce que nos parents ont fait l'amour à cette seconde près. Une seconde après, nous aurions été totalement différents. Donc, ces bébés sont là, et ils sont là, ils sont ce qu'ils sont, simplement parce que leurs parents se sont jetés l'un sur l'autre à cet instant précis. Et aussi, pourquoi celui-là doit vivre, celui-là ne doit pas vivre. Enfin, c'était aussi pour moi un peu un questionnement sur la naissance et l'avortement. Enfin, pourquoi on choisit, pourquoi un est choisi? Et donc, tous ces bébés tournaient très, très, très rapidement, et puis de temps en temps, on les voyait. Et donc, j'ai gardé énormément de bébés polonais. J'ai assez peu de sources dans mon travail, et je me sers à peu près toujours plus ou moins des mêmes sources. Donc, j'ai des Suisses morts, j'ai des bébés polonais, enfin, j'ai des choses comme ça qui sont... Alors ça, c'est une chose, mais qui là, il n'y a qu'un exemple. Donc, vous connaissez le tac au tac. Et le scratch, donc on doit gratter. Et donc là, c'est des images qui sont argentées. Et donc, c'est très joli, parce que l'argent, l'image argentée de sérigraphie, c'est une sérigraphie. Et en dessous, c'est des enfants d'une école parisienne qui se trouvait dans l'île Saint-Louis, une école nationale qui s'appelait Ave Maria, rue de l'Ave Maria. Et par hasard, j'ai trouvé une photo de cette école en 43. Et la moitié des enfants ont une étoile à six branches. Et la moitié des enfants donc, sont sans doute morts l'année d'après. Et donc, par le hasard, on sait qui est vivant. Ils ont tous le même visage. On gratte et on voit ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir et ceux qui sont préservés. Et donc, c'est là encore comme une sorte de jeu de chance, enfin, de chance macabre et de chance horrible. Mais de pourquoi celui-là? Et naturellement, cet enfant, je n'ai plus aucune idée. Par exemple, on voit que son visage, s'il portait l'étoile ou s'il ne le portait pas. Et si on continue à gratter, on le saura.
Mais chance, ça veut dire hasard aussi.
Chance, ça veut dire hasard. La question de hasard est une question qui m'a toujours obsédé entre le hasard et la destinée. C'est-à-dire que je ne suis pas croyant, donc je ne crois pas à la destinée. Ou on conçoit que les choses sont plus ou moins écrites, même si on ne peut pas comprendre pourquoi c'est comme ça, mais que c'est plus ou moins écrit. C'est-à-dire si vous faites écraser en sortant d'ici... On peut dire, voilà, vous êtes arrivé un peu en retard, on a parlé un peu trop, puis c'était écrit que vous deviez vous faire écraser en sortant d'ici. Si on n'est pas... et ça, c'est d'être religieux. C'est de penser qu'il y a une sorte d'organisation du monde. Et sinon, on pense simplement que c'est le bazar et que vous n'avez pas regardé à gauche, vous avez dû regarder à gauche, puis que c'est comme ça. Et donc, évidemment, cette réflexion entre le hasard et la destinée est quelque chose qui m'a toujours obsédé. Et j'ai fait pas mal d'œuvres autour de ça, de ce thème. Mais qui n'a naturellement pas de réponse.
Vous n'êtes pas croyant, Christian Boltanski, mais cependant, vous pensez que Dieu existe.
Non, je m'intéresse beaucoup aux religions, mais je pense qu'il y a plus ou moins deux sortes de religions. Il y a les religions, justement, qui pensent qu'il y a une réponse et qu'on sait la réponse. Et ça, pour moi, c'est des religions dangereuses. Et puis, il y a des religions qui posent des questions... et qui, là, sont des régions plus intéressantes. Donc, pour moi, il y a, disons, on peut dire le christianisme et l'islam qui pensent avoir trouvé, enfin, avoir eu la réponse, et puis des religions qui ne sont pas des religions, d'ailleurs, comme le bouddhisme ou le judaïsme, qui sont des religions de questionnement. Et donc, je suis plus proche, effectivement, des religions de questionnement que des religions de réponse.
Le fait d'être juif est très important. Peut-être à l'intérieur de votre pratique artistique aussi, on peut en parler, en tout cas d'après certaines œuvres que vous avez faites, Christian Boltanski. Et pourtant, votre père, on reviendra sur l'histoire personnelle tout à fait extraordinaire, mais votre père a été caché pendant la guerre parce que médecin juif à l'intérieur de votre propre appartement familial. Mais au sortir de la guerre, votre père s'est converti.
Il s'est converti avant.
Ah, avant.
Mais vous savez, je crois que très souvent au départ de la vie d'un artiste, il y a ce qu'on peut appeler un trauma. Par exemple, pour prendre un artiste que j'aime énormément, Louise Bourgeois, il y a cette relation avec son père qui a formé son art. Et moi, sans doute...
Une relation presque incestueuse.
Voilà, d'amour, haine, enfin bon. Et qui, en tout cas, beaucoup de gens ont ça, et malheureusement, peu de gens sont aussi doués que Louise Bourgeois, mais disons, je pense que ça a été le point de départ. Et dans mon cas, il est sûr que ce trauma a été le fait que, étant très très jeune, j'ai écouté des récits de la Shoah faits par les amis de mes parents qui étaient tous des survivants, en gros. Et donc, ça, je les ai entendus depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. Et donc, je pense que, effectivement, ça a été mon trauma, même si je le comprenais pas bien, même si... Mais disons, de vivre dans cette sorte de monde d'angoisse, de savoir que la méchanceté du monde, en quelque sorte, m'a sûrement été quelque chose de déterminant dans ma vie, pas seulement dans mon art, mais dans ma vie. Alors,
vous n'étiez pas conscient, vous entendiez des choses, vous les compreniez pas forcément.
Je savais que tout le monde était extrêmement, qu'on pouvait se faire tuer à chaque instant. Ça, je l'ai compris tout de suite.
Il est très difficile de recréer le passé. Parce que le passé a deux visages. C'est le visage positif. Quelqu'un a dit, mais Louise, c'était une jeunesse dorée. C'est idiot de dire ça. C'était une jeunesse dorée d'un point de vue. Mais c'était une jeunesse très pénible d'un autre point de vue. C'est-à-dire que, au sein de la famille, il y avait comme un virus qui était traumatique pour nous, pas seulement pour moi, mais pour mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que nous souffrions d'une fissure dans la cellule familiale. Et cette fissure représentait, c'est bien français, était représentée par le fait que mon père introduisait des maîtresses. Ça, c'est son affaire. Mais je ne le juge pas. Mais il introduisait des maîtresses dans la maison. Et c'est là que le trauma a eu lieu.
Mais je voudrais en revenir à ce bain de langue des amis de vos parents, tous des survivants de la Shoah, que vous avez entendu quand vous étiez très jeune, et à cette pratique de la religion. Vous alliez devant les églises, mais vous rentriez pas dans les églises, donc vous écoutiez la messe par une sorte de...
Je pense que mon père, plus que ma mère, était un homme, on pourrait dire, mystique. Et il s'enfermait pendant des heures pour lire des livres pieux. C'est quelque chose qui était tout à fait déterminant dans sa vie. Mais il a pratiqué la religion chrétienne un peu comme un juif, c'est-à-dire plutôt par la lecture, par d'essayer de comprendre, plutôt que par des pratiques de prière. Et en plus, il n'entrait pas dans les églises. Là, je pense que c'était par une sorte d'humilité. Et d'ailleurs, je comprends ça. Donc, il envoyait ses enfants à l'église, et lui restait dans la voiture avec ma mère à attendre que nous, et à prier, ou à prier, ou à lire, je ne sais pas, pendant que nous étions à l'église. Mais ça, je comprends ça. C'est une chose très surprenante, par exemple, chez les chrétiens, de pouvoir communier, c'est une chose effrayante. On devrait se trouver mal, on devrait se jeter par terre. C'est une chose qui est tellement énorme. Quand vous parlez de l'influence du judaïsme, je suis jamais entré dans une synagogue de ma vie.
Aucune synagogue ne vous a proposé d'accueillir une de vos œuvres.
Il n'y a pas beaucoup d'images chez les Juifs, vous savez. En principe, il n'y a pas d'images. Donc, je m'intéresse aux religions. Par exemple, je m'intéresse beaucoup au shintoïsme, mais pas forcément dans un but d'adhérer à cette religion. Le shintoïsme, qui est une religion qui m'intéresse beaucoup et qui me plaît, il y a des choses dans le shintoïsme que je n'aime pas du tout.
Donc, comme par exemple.
C'est un peu la religion officielle du Japon, qui a béni des militaires. Enfin oui, c'est un peu une religion trop nationale. Donc il y a pas vraiment... Je n'adhère pas réellement à une religion. Je pense, si vous voulez, qu'en gros, les religions, d'une manière générale, sont un endroit, un recueil inimaginable de légendes merveilleuses. Et de paraboles, et plus que des légendes, enfin des choses qui nous font vivre. Et que ce soit toutes les religions du monde... que ce soit les adorateurs du feu au Moyen-Orient ou la religion chrétienne, où toutes les religions sont splendides. Splendides à étudier, splendides parce que c'est des humains qui les ont écrits, que ça parle de l'humanité. Ce qui est une chose différente d'adhérer à une religion. Et je pense vraiment, et ça j'en suis vraiment pour moi persuadé, qu'il ne faut jamais avoir de réponse à quoi que ce soit. Et il faut toujours se poser des questions, mais ne jamais avoir de réponse. Parler, par exemple, à un rabbin, et on peut être rabbin sans croire en Dieu. On doit chercher Dieu, mais pas forcément l'avoir trouvé. Et ça, ça m'intéresse beaucoup plus que de ceux qui pensent l'avoir trouvé. On est tous en recherche. En gros, pour dire une chose très un peu légère, un peu grosse comme ça, un peu évidente, je pense qu'il y a des portes qui sont fermées avec des serrures, que chaque être humain sur Terre cherche à ouvrir ses portes et cherche à trouver la clé pour ouvrir ses portes, qu'il n'y a aucune bonne clé, mais qu'être humain, c'est de chercher à ouvrir ses portes. Donc, être humain, c'est chercher désespérément une clé qui ouvrira cette porte, et que ce soit un artiste, un scientifique, un théologien, bon. Et donc, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est commun à l'humain de condition. Et donc, comme tout le monde, je cherche des clés, mais heureusement, je sais pour moi qu'il n'y a pas de bonne clé, et que de toute façon, je la trouverai jamais. Et de toute façon, et qu'à la fin, je pense que c'est un faux problème. Mais que cette quête est importante.
Donc, vous vous considérez comme un chercheur?
C'est-à-dire comme quelqu'un qui se pose des questions, et qui pose des questions aux autres, mais qui n'a pas les réponses aux questions que je pose.
Donc vous êtes l'exact inverse de Picasso qui disait qu'il cherchait pas mais qu'il trouvait.
Là c'était lui, c'était dans le domaine artistique, mais c'est vrai que, disons, si on veut parler des grands maîtres, je me sens plus proche de Giacometti que de Picasso. Et Giacometti, effectivement, lui, recommençait chaque jour parce qu'il n'avait pas trouvé, et Picasso pensait qu'il avait trouvé.
Moderne, vous avez quand même un portable, high-tech.
Archi moderne. Ouais. Je peux pas me passer de ça.
C'est le Japon qui vous envoie des petits textos, c'est votre...
Non, c'est pour le spectacle
votre
que je dois faire. Le spectacle que je dois faire en janvier à Beaubourg.
Un spectacle?
Oui, vous savez, j'ai fait beaucoup de spectacles qui sont des spectacles musicaux. Et le 12 janvier, avec mes amis, je travaille toujours avec les deux mêmes amis, un compositeur et quelqu'un qui travaille les lumières, on fait un spectacle dans le parking de Beaubourg. Alors, c'est une production de l'opéra comique, c'est un opéra, C'est un peu trop lourd pour moi. C'est-à-dire que je crois qu'il y en a, je sais pas, 30 musiciens, 40 chanteurs. Enfin, c'est un gros spectacle. Et ce sera dans le parking de Beaubourg. Mais donc, ce sera assez différent de ce qu'on peut voir généralement dans les opéras. Mais j'ai déjà travaillé à l'Opéra Comique quand il était en ruine, il y a 2-3 ans, quand il était en reconstruction. Et donc là, ils ont eu la gentillesse de produire cette chose qui... Je ne sais pas à quoi elle va ressembler exactement, mais qui sera assez grosse.
Mais vous aviez fait un spectacle il y a quelques années auparavant au Théâtre du Châtelet. Vous aviez aboli l'intérieur, l'extérieur, les coulisses, le plateau, c'est-à-dire l'annulation de toutes les frontières.
Faire des spectacles m'a beaucoup apporté et m'a beaucoup intéressé. Et la grande chose, mais c'est pareil dans l'exposition que je fais, je ne veux pas qu'on soit devant une œuvre, mais qu'on soit dans l'œuvre. Et donc tous les spectacles que j'ai faits, on n'est pas assis dans une salle, on se promène dans un lieu qui peut être le sous-sol d'une piscine, comme j'ai fait à Lyon, ou dans un opéra, ou au Châtelet, et on se promène à l'intérieur d'un lieu et des événements, qui sont des événements musicaux ou des acteurs, il y a des événements qui arrivent. Mais on est à l'intérieur d'un lieu. Et par exemple, dans l'exposition que j'avais fait au Grand Palais, personne, j'avais souhaité d'une part que ce soit en hiver et qu'on coupe le chauffage, et les visiteurs erraient dans ce lieu qui est très vaste, et avec des gros manteaux, et comme il y avait des choses sur le sol, ils regardaient vers le sol, et les spectateurs faisaient partie de l'œuvre. Ils étaient partie prenante de l'œuvre, ils étaient...
Et ils n'osaient pas aller prendre les vêtements qui pourtant les tentaient pour pouvoir se réchauffer.
Mais ils étaient à l'intérieur d'un lieu, pas devant quelque chose, mais à l'intérieur d'un lieu, et faisant partie du lieu. Donc c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui m'intéresse dans les spectacles que je fais. Les spectacles m'ont beaucoup appris aussi par le fait que ce qui est très beau quand on fait une chose au théâtre, pas au théâtre, dans l'esprit du théâtre, c'est qu'on travaille pendant très très longtemps, puis que ça dure 3 soirées, et que c'est fini, et que seuls ceux qui l'ont vu, quoi. Et ceux qui l'ont pas vu, l'ont pas vu. Et donc... Là, c'est une chose qui m'a appris, parce qu'aujourd'hui, à peu près 80% des œuvres que je fais sont détruites. Ça m'a beaucoup appris dans cette idée de l'éphémère. Et je me souviens, justement, vous parliez du Châtelet. Au Châtelet, le dernier soir, il y avait les employés du Châtelet qui arrivaient avec des balais, qui balayaient tout, et qui commençaient à construire à minuit le décor du lendemain. Et en même temps, c'était effrayant, parce que ça y est, c'est fini. Et en même temps, c'est beau parce que, voilà, un autre commence. Et donc, les spectacles m'ont appris, de faire quelque chose qui soit très éphémère, mais également de toucher à un mot qu'on ne peut plus employer aujourd'hui, qui est l'art total. C'est-à-dire, qui est pour moi ce que j'emploie dans mes expositions, c'est-à-dire qu'il y a le son, parfois il y a l'odeur, parfois il y a le froid, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui font partie de l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens de plus en plus. Et l'exposition, par exemple, que je vais faire à Pompidou, à Beaubourg, seuls ceux qui l'ont vu l'auront vu. C'est comme un spectacle de théâtre. C'est-à-dire que la configuration est telle qu'elle est unique. Alors, et que finalement, l'expérience de visiter cette exposition sera une expérience unique. Et seuls ceux qui l'ont vu pourront la raconter, mais ce sera fini. Comme j'ai une passion pour certaines œuvres théâtrales, notamment de Tadeusz Kantor, le grand dramaturge polonais, il est mort et personne ne peut... On peut voir des vidéos, mais c'est pas ça. Et personne ne fera plus ça. Et donc, l'exposition que je fais... On pourra avoir d'autres éléments ailleurs, retrouver des éléments, mais tel que je l'ai configuré, ça c'est ça, fini. Comme un spectacle musical ou une pièce de théâtre, elle est finie le jour où c'est la dernière, quoi. Et d'ailleurs, là, à Beaubourg, je vais faire une chose amusante. Vous savez toujours, quand on fait ces grosses expos, il y a des sortes de, si je puis dire, de services après-vente, c'est-à-dire qu'il y a des conférences, des choses comme ça. Et la dernière qu'on fait, on le fait après la fermeture de l'exposition quand tout sera en train d'être démonté. Et donc, les visiteurs qui voudront verront la réalité. C'est-à-dire que les caisses qui arrivent, les lumières allumées, les murs qui tombent, les, disons. Et ça, ça m'amuse de voir justement, de montrer la fin. Là, on voit. Et de montrer que tout ça était un vaste décor et que c'est détruit. Mais, pour moi, de faire une exposition, je souhaite que ce soit un tout petit peu, vous savez, comme dans les pays du Sud, parfois, on voit une église avec une porte ouverte, on entre, il y a un monsieur qui lève les bras, il y a une odeur, parfois il y a de la musique, on comprend rien, on s'assoit, on reste là 10 minutes ou 15 minutes pour réfléchir, et puis on ressort dans le soleil pour aller déjeuner et pour penser à la vie. Et donc, pour moi, faire une exposition, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une sorte d'arrêt où on ne comprend pas, mais où on sait que quelque chose peut-être se passe et quelque chose peut-être peut se passer un petit peu. Donc, c'est ce que j'aimerais faire.
Pour moi, le théâtre, ce n'est pas un terrain isolé et professionnel. Et les processus qui s'accomplissent dans l'art actuel, ce sont les révalorisations radicales. Et c'est l'avant-garde, ces révalorisations radicales qui explosent, qui détruisent, qui semblent absurdes, qui sont ridiculisées, humiliées, interdites. Tous ces processus forment un ensemble d'idées et de faits qui sans cesse renouvellent la conscience de la condition humaine. Et dans le théâtre, il faut connaître ces processus. Et à mon avis, les metteurs en scène et les décorateurs, ils ne connaissent pas ces processus qui sont en général dans l'art. En plus, il faut y participer. C'est quelque chose de plus. Il faut les créer et il faut prendre les risques. Prendre les risques, et ça, je considère comme la chose la plus importante.
Vous avez dit tout à l'heure, Christian Boltanski, que vous souhaitiez que nous, on dit maintenant les regardeurs, on ne dit plus les spectateurs, on rentre à l'intérieur de votre travail, vous y réussissez, mais vous, comment est-ce que vous faites corps avec votre travail ?
On ne travaille que sur soi. C'est la seule chose qu'on connaît. On ne travaille que sur ses sentiments. Et en même temps, si on est un artiste, chacun qui voit ce travail pense qu'il n'a été fait que pour lui et se reconnaît. Et je pense que c'est même une des beautés de l'art. C'est qu'en même temps, c'est son histoire, mais ça devient l'histoire collective de chacun. Pour avoir montré que j'ai lu beaucoup de livres, si on peut lire Proust aujourd'hui, c'est parce qu'il ne parle pas de lui, mais qu'il parle de chacun de nous. Parce que nous avons tous été jaloux, on a tous attendu notre mère une nuit. Et donc, constamment, quand je lis ça, je me reconnais comme chacun peut se reconnaître. Et je pense que la grande beauté de l'art, c'est du plus individuel au plus collectif. C'est une vieille histoire que j'ai dû vous raconter 300 fois, et c'est que je pensais que les artistes n'ont plus de visage, mais qu'ils ont un miroir à la place du visage, et que chacun qui les regarde se voit lui-même. Ils ne sont plus rien que les autres. Ils ne sont plus que ça, et chacun peut dire, mais comment sait-il ça sur moi? Comment il sait que j'aimais ma mère de cette manière-là? Et naturellement, on ne le sait pas, mais chacun relie, c'est comme disait Duchamp, c'est toujours le spectateur qui refait l'œuvre. Et donc il le fait avec son propre vécu, et donc il le revoit, et donc il se reconnaît. Il dit, mais c'est impossible, c'est exactement ce que je pensais quand j'avais 8 ans. Et je vais être très souvent au Japon, mais la première fois où j'ai travaillé au Japon, j'ai exposé au Japon, Les Japonais m'ont dit, qui sont des gens aimables, m'ont dit que mon art était typiquement japonais, que je devais connaître parfaitement la tradition japonaise, que je ressemblais un peu à un Japonais, que je devais avoir un grand-père japonais. Et j'en étais très heureux. Et mon seul rêve, c'est que si je suis en Afrique, on me dise que je devais avoir un grand-père africain et que mon art est tellement africain. Parce que forcément, ils ont pu relire ce que je faisais par rapport à leur vie et à leur vécu. Et donc, ils se sont reconnus. Si vous voyez une salle de cinéma avec un film qui passe, il y a plein de gens qui regardent, mais chacun voit un film différent. Parce qu'il le voit... Je ne sais pas, si vous êtes fait quitter par votre fiancé la veille, vous ne voyez pas le film de la même manière que si vous êtes très heureux. Oui. Donc chaque fois, on voit la chose avec sa vie, et donc chacun voit quelque chose d'autre. Et donc peut-être que la seule chose qu'un artiste peut faire, c'est d'envoyer une sorte de stimulus, d'excitant, pour que chacun se reconstruise son histoire par rapport à ce qu'il est. Et peut-être que la beauté de l'art plastique, comme on dit, pour employer un mot horrible, c'est qu'elle est moins précise que les mots. La poésie est merveilleuse parce qu'elle est précise et imprécise, mais les mots sont souvent trop précis. Et quand vous regardez un tableau, vous ne savez jamais s'il s'agit de la représentation d'un chapeau ou si c'est une montagne. Et donc il y a cette sorte d'ambiguïté dans l'art qui, je pense, qui apporte quelque chose, parce que ça permet à chacun de plus se reconnaître. Comme quand je faisais des photographies, enfin, je n'ai jamais fait moi-même, je suis incapable de faire une photo, mais quand j'utilisais des photographies, je demandais toujours qu'elles soient tirées floues pour que chacun puisse plus facilement dire « Ah, il ressemble à mon oncle un tel ». Alors que si la photo est nette, forcément, on peut moins dire ça. Mais si la photo est un peu imprécise, on peut plus reconnaître quelqu'un. Je pense que l'imprécision, dans mon domaine, est importante. Et que la poésie a cette chose merveilleuse d'être plus précise que tout et plus imprécise que tout.
Francis Bacon, qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
C'est un très très grand artiste, et immense, immense artiste. Francis Bacon est un immense artiste.
Pourquoi ?
Parce que il exprime par ses images en même temps la grandeur et la misère humaine, les deux à la fois. C'est en même temps pas du tout pleurnichard, et en même temps ça parle de la condition humaine. Aussi parce que visuellement, il y a eu des dizaines d'inventions que je pense que c'est lui qui a peint le mieux de personnes qui font l'amour par le côté bestial. J'aime un peu moins les tableaux de la fin parce que, sans doute comme beaucoup d'artistes, il savait un tout petit peu trop bien les faire. Et qu'on arrive à la fin à une sorte de perfection dans la matière, dans les couleurs, dans les formes, qui, moi, me gêne un tout petit peu. Donc, je suis plus qu'amoureux de toute la première partie des papes et tout ça, mais d'une manière inimaginable, et un tout petit peu moins de la période de la fin. C'est évidemment... c'est surtout... Alors là, en plus, on peut parler du courage, parce que dans une période où l'abstraction était reine, il a fait une peinture figurative... Peut-être même que avec des influences du surréalisme de Picasso, etc. Mais disons quelque chose qui était contre le courant habituel. Et ce qui était une très grande force, je pense, c'est que, pour dire des choses que tout le monde sait, mais il y a lui et Giacometti, enfin, qui sont, disons, pour moi, très très proches. Je pense que je préfère encore Giacometti, mais c'est deux artistes splendides et très proches qui parlent à peu près de la même chose. Et aussi, je disais que j'étais pas, enfin, on parle toujours de soi, mais je suis pas un peintre moderne, et ils sont pas des peintres modernes. Et sans doute que faut surtout pas être un peintre moderne. Donc c'est, mais non, je pense qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que dans une vie, il y a extrêmement peu de choses qui vous restent. Si dans une vie on a 15 expositions, 20 films et 10 pièces de théâtre, c'est énorme. Et il est sûr que ces deux-là sont, avec Twombly, avec certains autres, mais sont les artistes qui me restent.
je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Merci à Christian Boltanski qui nous a reçus dans son atelier à Malakoff. J'espère que nous nous retrouverons demain, toujours dans son atelier de Malakoff, à l'occasion de l'ouverture de son exposition au Centre Pompidou, intitulée « Faire son temps ». Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip.